ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce que on a 120 vaches et qu'on produit 1 million de litres de lait que c'est pas raisonné. Ça, c'est très important de se le dire. C'est pas parce que vous avez des robots de traite que vos vaches ne sortent plus, que tout est livré par semis avec des provenances de je ne sais où, c'est pas ça.
Salut à toutes et à tous, je suis Julia Siriex. Bienvenue dans le deuxième épisode de Gavé. Gavé, c'est une série radiophonique consacrée aux éleveurs bretons et éleveuses bretonnes à l'épreuve de la transition écologique.
Qui c'est qui aujourd'hui veut vouer sa vie entière à un métier?
Mais au final, comment je suis rémunérée pour ça? Et ça, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde collectivement.
Gavé, on veut remettre en place le même schéma qu'il y a eu avec l'agriculture industrielle.
Ce système-là, il est terminé. Il faut vraiment, vraiment chacun s'unir pour qu'on avance.
Gavé.
On se dit qu'on est peut-être la dernière génération d'agriculteurs ici.
Gavé.
Avec mon collègue Pierre Giraud, on est parti direction Plouarette, dans les Côtes d'Armor. Là-bas, on a passé la journée avec Jean-Yvon Pratt, un éleveur laitier qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est sa voix que vous allez entendre tout au long de cet épisode. Mais ce ne sera pas la seule. Léna Thébault et Pierre Giraud sont partis à la rencontre de chercheurs et chercheuses, journalistes et économistes, pour des explications supplémentaires. Pas de panique, je prendrai soin de vous les présenter. On va parler enseignement agricole et environnement dans 5 minutes avec une famille dont tous les membres sont passés par le lycée agricole de Pommery-de-Jaudy. À la 14e minute, Jean-Yvon Pratt s'exprime sur la crise laitière et le défi de joindre les deux bouts. Puis on parlera glyphosate, où on en est, qui est responsable, comment peut-on faire autrement. Rendez-vous à la 19e minute.
Une journée classique, c'est là on va les sortir en début d'après-midi. Et puis on va les rentrer vers 6h30 ce soir. Quoi. Cet été, elles sortiront plus, mais il faut que les terres portent. Là, on a eu quelques jours de beau temps, donc on a pu les ressortir. Mais quand vous avez un hiver très pluvieux, c'est impossible de sortir les vaches parce que tout simplement les prairies ne portent pas. Quoi.
Aujourd'hui, vous estimez que c'est quoi les principales difficultés auxquelles vous faites face dans votre métier d'éleveur ?
Il y a la charge de travail qui est souvent importante, la pression financière aussi, mais ça a toujours été. Mais aujourd'hui, on rajoute le fait qu'on est stigmatisé, sans arrêt, caricaturé. Quand je fais une application phyto, alors je vais la nuit. Alors, c'est pas parce que j'ai pas des produits interdits, pas du tout. C'est parce que l'hygrométrie est bonne, parce qu'il n'y a pas de vent. Alors, vous comprenez, quand vous passer des nuits entières pour justement faire au mieux, réduire les doses, et que le lendemain, vous voyez un article dans le journal où on vous stigmatise encore, non, c'est bon. Il y a la charge de travail, l'aspect financier, mais ça aujourd'hui c'est abominable. Mais c'est atroce au point qu'aujourd'hui je me dis, enfin mon cousin et moi, puisqu'on est associés, on se dit qu'on est peut-être la dernière génération d'agriculteurs ici. Parce que est-ce qu'on veut ça pour nos enfants, la vie qu'on a? Non.
Hélène Bonneau, journaliste à Terra, journal hebdomadaire, agricole et rural.
Cette parole, on l'entend des agriculteurs qui ont une 40-50 d'années aujourd'hui, mais à contrario, les écoles d'agriculture débordent. Donc je pense pas forcément que ça va s'arrêter. Par contre, ça va sans doute être amené à évoluer, parce que finalement, ces nouvelles personnes, elles ont envie de faire un nouveau type d'agriculture. Mais au final, comment je suis rémunérée pour ça? Et ça, c'est la question à laquelle il faut qu'on réponde collectivement. Les médias, nous, on a notre part de responsabilité dans l'information qui est transmise, les agriculteurs en communiquant sans doute plus sur leurs pratiques, et les consommateurs, par leur volonté, mais aussi et surtout par leur acte d'achat.
Et quand on enverra de la viande qui vient des États-Unis ou du Canada ou de je ne sais où, il n'y aura aucune traçabilité, qu'il y aura encore des scandales, et bien peut-être on se dira, ben finalement c'était pas si mal que ça, et pourtant on a tout détruit.
Vous avez fait un lycée agricole?
Ouais, j'ai été à Pommery-de-Jaudy jusqu'au BTS, et puis ensuite il y a eu une opportunité pour moi de reprendre une ferme à 4 km d'ici. Et j'ai fait 3 mois, donc je suis parti en Irlande. Et j'ai été super, enfin très surpris parce que l'Irlande a une image très vertueuse. Et franchement, au niveau environnemental, c'était une catastrophe, tout simplement. Alors que l'image est pourtant...
Les vertes prairies.
Oui, non, mais c'est ça. Mais j'ai fait des choses qui étaient déjà enfin, déconseillées ici, quoi.
Ça, ça illustre typiquement le fait que l'Irlande et la Bretagne partent d'un point de vue environnemental de situations très différentes.
Pierre Dupraz, chercheur en économie à l'INRA.
La Bretagne, on est dans une situation critique du point de vue de la pollution par les pesticides, de la pollution par les nitrates. Ce n'est pas le cas du tout de l'Irlande. L'Irlande a un projet d'intensification agricole. Et donc la stratégie de l'Irlande, c'est d'assumer le fait de produire davantage en dégradant un certain nombre d'indicateurs environnementaux, tout en restant relativement vertueux vis-à-vis d'autres pays de l'Union européenne. On voit bien que dans la compétition intra-Union européenne, la Bretagne a moins d'atouts tout de suite que l'Irlande.
On peut continuer à marcher un petit peu.
Ouais. Vous voulez parler aussi au point de vue environnemental, ce qu'on apprend dans les écoles, la prévention ou un changement qu'il y a eu
Oui, enfin forcément, après ce qu'il y a, c'est que les normes évoluent tellement, tous les ans il y a une nouvelle norme, donc on était sensibilisés par rapport à ce qu'il y avait à l'époque.
D'ailleurs, c'est quoi la place de l'environnement dans l'enseignement agricole aujourd'hui ? Dans la famille Mérère, les parents, Didier et Sophie, sont éleveurs laitiers. Leur fils Alan étudie au lycée agricole de Pomeritz. On va voir ce qu'il en est avec deux générations différentes.
Une grosse matière, c'est l'agronomie, donc c'est tout ce qui est sol, et biologie.
Nous, on démarrait à peine tout ce qui était réglementaire lié à l'environnement quand on était au tout début.
C'est un peu, notre métier, enfin ça sera notre métier, vu que si tu respectes pas l'environnement, ta ferme ne marchera pas ou tu risques d'avoir des gros soucis. Et du coup, c'est pour ça qu'on est obligé d'être vigilant à tout ça.
C'est un composant de l'avenir pour vous, hein. Ça c'est sûr qu'il faudra, plus qu'à l'environnement, coller aux attentes sociétales, comme on dit, quoi. Coller à ce que les gens souhaitent. Dans la mesure du possible aussi.
Il faut quand même faire attention. À force d'en mettre, on ne trouvera plus beaucoup de personnes à vouloir faire le métier. Et ça, c'est sûr. Quand la cocotte sera pleine, on arrêtera et puis c'est tout. Et ça, c'est un discours que, enfin, quand je me suis installé, ne jamais avoir. Mais à force d'en prendre...
On n'est pas forcément préparé à ça, en fait.
On ne peut pas être préparé à ça. Je veux dire, aujourd'hui, on est stigmatisé. On va dire, bah, tiens, lui, il produit 1 million de litres de lait, il a 120 vaches, il aime pas ses bêtes. Moi, si je n'aimais pas mes bêtes, je ne me lèverais pas la nuit quand il y a un vélage. Enfin, je veux dire, c'est pas pour le pognon que je le fais, parce que sinon, je me serais cassé. Et puis, c'est pareil, demain, s'ils allongent, par exemple, des durées de stockage d'effluents, ou si ils en ont parlé pendant un moment... De ne plus stocker de fumier au champ. Ben on arrêtera. On va pas aller faire des bâtiments qui coûtent hyper cher pour ça, non. Pour gagner quoi en plus? J'aurai 100 euros de plus à la fin du mois parce que j'ai fait ça? Non, j'aurai rien. C'est peut-être moins que j'aurai. Parce que les annuités qu'on aura engagées, il faudra les payer. Enfin, je veux dire, on est arrivé à... On se pose trop de questions, là. On fait plus blanc que blanc. Tout est maîtrisé. Vous avez les stockages d'effluents. Ensuite, quand vous les épandez, vous tenez à jour votre cahier d'épandage, qui lui-même est contrôlé par l'administration. Et c'est pas encore bon.
Trop de normes pour les agriculteurs. Hélène Bonneau, journaliste à Terra, le pense aussi.
Bah oui, les normes, c'est bien, c'est important. On peut les mettre en place. Mais ça aussi, ça a un coût. Et ça doit être pris en compte. Bah oui, le coût de production, à chaque fois, nous, en tant que consommateurs, on en demande plus. L'État en demande plus pour assurer la sécurité, pour la biodiversité, pour l'environnement. Il y a plein de toutes sortes de bonnes raisons. Donc à un moment donné, il faut remettre le curseur pour que chacun puisse prendre sa part dans ce qu'il veut pour la société d'aujourd'hui et de demain.
Aujourd'hui, on vend notre litre de lait 32 centimes, donc du lait entier. Quand vous achetez du lait demi-écrémé, il est déjà à 80 ou 90 centimes. Il en manque, enfin, si vous faites le ratio des heures qu'on fait ramener à la paye qu'on se dégage, c'est très très maigre. 3-4 centimes de plus du litre permettrait sûrement aux éleveurs de mieux vivre. Est-ce que ça pèse sur le caddie d'une famille? Rien, 4 centimes du litre de lait, ça reviendrait à quel coût par an pour une famille? Que dalle, sur une année. Mais ouais, ça nous permettrait de respirer. Ouais.
Le panier de la ménagère, par rapport à son budget global, il a fait que diminuer au niveau de l'alimentation pour prendre de l'espace ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Quel produit on veut et pour quel prix? Et à un moment donné, se poser les questions en tant que consommateur. Et la deuxième chose, c'est la répartition de la valeur. Parce que c'est bien beau de vouloir faire payer plus cher aux consommateurs. Mais à quel moment, par quelle étape ça a passé pour que le prix, en plus, il soit réellement reversé à l'agriculteur?
On peut aller voir la machine précisément. Oui, ouais. Qu'on voit un peu à quoi ça ressemble.
Alors vous allez faire gaffe de ne pas glisser, que le sol est hyper glissant au niveau des robots. Bah, des fois, il y a des projections de lait, et le lait, c'est hyper grand, donc... Donc là, la vache, elle est identifiée. Donc elle a du colza qui est distribué en même temps dans la stalle. Donc il nous dit quelle quantité elle va avoir. Parce que le robot va ajuster son alimentation par rapport à sa production. Donc la vache vient quand elle veut. Donc c'est par rapport aux besoins qu'elle va ressentir. D'être soulagée quelque part, d'être traite. Vous allez voir le cycle complet. Donc la vache va être identifiée.
Elles sont identifiées comment?
Avec des colliers. Et donc c'est le robot va l'identifier grâce à ce collier-là. Elle est cool, elle bouge, elle se fait traire.
Elles ont toutes leurs petits noms en plus.
Ouais, on essaye. Ouais, c'est pas qu'un numéro quoi. On les connaît parce qu'on est tous les jours avec.
Cette rupture fondamentale entre l'humain et l'animal qui est en train de se fondre progressivement. Et du coup, le problème, il devient là, il dit qu'on mange les animaux.
Véronique Van Tilberg, professeure de sociologie.
À partir du moment où ils ne sont pas si différents que ça de nous, et qu'on les mange, il y a bien un problème. On voit dans de plus en plus de boucheries dans lesquelles il y a écrit « la viande qu'on vend respecte les instincts naturels des animaux ». Et c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on est en train de refonder une sorte de nouveau contrat social avec l'animal, dans lequel on est autorisé à manger l'animal si et seulement si on l'a traité correctement.
On peut aller voir la nurserie d'ailleurs ?
Ouais. Donc on a fait un bâtiment donc abrité mais ouvert, de manière à ce qu'au niveau de la ventilation, bah, ça soit quand même agréable. C'est qu'en été, il ne fait pas trop chaud, mais en hiver, il ne fait pas froid non plus. Donc c'est vrai que c'est quand même top au niveau bien-être. Et puis bon, ils ont la petite courette extérieure de manière à sortir et puis voir les copains à côté.
Philippe Boud, enseignant-chercheur en sciences sociales de l'environnement.
L'éleveur dit qu'il fait toujours tout pour le bien-être animal. Donc par rapport aux normes d'élevage en vigueur, mais comparé effectivement aux attentes sociales qui sont peut-être plus diffuses, qui touchent à cette idée du corps ou de la liberté, peut-être qu'il ne répond pas à ces attentes-là, mais est-ce qu'on peut faire de l'élevage en répondant à ces attentes qui renvoient à un idéal, à un imaginaire? C'est pas possible, enfin c'est pas l'élevage tel qu'il existe, même depuis longtemps, même avant la mécanisation. Hein.
Vous allez voir un vélage. Tant que la poche des eaux n'est pas crevée, on n'intervient pas.
Qui va intervenir après?
Ah ben, si jamais je vois qu'elle met trop de temps, c'est moi qui interviens. On va la laisser un petit peu et puis elle va se recoucher de toute façon et puis va repasser et puis voilà.
À une agriculture biologique, est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas? Est-ce que c'était une réflexion que vous êtes fait ou en se disant aujourd'hui je change complètement de modèle ou dans 3 ans, 4 ans
J'ai réfléchi parce que de toute façon il faut toujours se poser la question. Maintenant, ça ne me convient pas. C'est une agriculture aujourd'hui qui est la plus aidée. Donc, est-ce qu'elle est durable? Ça veut dire que voilà, sans subvention d'agriculture biologique, donc est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est réellement si durable que ça?
Et parce que les agriculteurs ne gagnent pas pour vous forcément plus en étant dans le bio que ceux qui ne le sont pas?
Bah moi de ce que je vois autour de moi, je remarque pas forcément. Mais après, certains y vont parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'il y a les primes de conversion. Vous avez des gens en agriculture biologique qui sont très très bons, des bons, qui maîtrisent, qui savent bien travailler, qui, voilà, c'est quelque chose de maîtrisé et voulu. Après, vous avez des gens qui sont des fois un petit peu rêveurs. Hein, on trouve tous cool de voir ça, mais des fois, je me demande quand même avec quoi ils vivent. Et puis après, vous avez aussi ceux qui y vont, parce que il y a les aides à la conversion, mais qui ne sont pas convaincus du mode de production en lui-même. Donc voilà, moi je dis, s'il n'y avait pas ces primes de conversion, est-ce qu'il y en aurait autant?
Qu'est-ce qui pourrait être fait aujourd'hui pour que vous y alliez finalement dans le bio? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis ou...
Non, parce que en fait, je n'y crois pas. Déjà, à partir du moment où les rendements et autres sont moindres, est-ce qu'on peut parler de nourrir tout le monde? Je crois à ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, en conventionnel, du raisonner. Le pousser encore plus, j'y crois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on montre comme bon élève l'agriculture bio. Moi, ma question, c'est est-ce que l'agriculture bio peut se passer de l'agriculture conventionnelle? J'en suis pas sûr. Puisque aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup d'éjections de conventionnels partent pour être épandues sur des terres en bio. On vend de la paille, nous, à des agriculteurs bio, parce que faire de la paille en bio, c'est très compliqué, surtout dans la région où on est. Donc ça me dérange un peu parce que je me dis que ces gens-là, quand je passe avec mon pulvé pour aller faire une application sur un blé, ils se bougent le nez et après ils viennent acheter de la paille chez moi. Donc je trouve que c'est un peu trop facile.
Là, c'est extrêmement intéressant. C'est tout le problème. Hein.
Retour avec Pierre Dupraz, chercheur en économie à l'INRA.
Depuis le Grenelle de l'environnement et le premier plan éco-phyto, donc ça va faire 10 ans à peu près, eh bien, on a réussi à avoir une augmentation de la surface en agriculture biologique en France et un usage plus grand des pesticides. Donc c'est bien la preuve qu'on n'a pas la bonne politique. C'est pas en subventionnant l'agriculture biologique qu'on arrive à diminuer l'usage des pesticides. C'est bien le principal intérêt de l'agriculture biologique.
Et quand on entend parler du glyphosate, parce que c'est quand même le produit, on en parle le plus en ce moment, vous voyez ça comment, tout ce qu'il y a autour de ça, là, actuellement?
Le glyphosate... Moi, j'ai un petit article là, que j'avais trouvé. Je vais essayer de le retrouver. On va aller ouais, là-bas, ça souffle moins. Et que je trouvais intéressant. Alors, donc, il disait que des analyses ont été faites pendant des mois. Les études et recherches menées par la SOR aboutissent à de nouvelles conclusions. En effet, jusque-là, la pollution au glyphosate semblait provenir de la dégradation de produits phytosanitaires, pointant du doigt le monde agricole et les mauvaises pratiques individuelles. Il s'avère que le glyphosate pourrait aussi provenir de dégradation via l'oxydation du phosphonate. Et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, ni la FDSE. Hein, je veux dire, c'est le West France.
Ah, les fameuses pages agriculture du West France. Mais est-ce que le journal reflète bien les réalités du monde agricole? Retour avec Sophie et Didier Mérère pour avoir leur avis.
La façon dont les journalistes traitent le sujet en agriculture, par rapport à quand c'est dans une revue spécialisée où voilà, c'est des gens qui sont dedans, qui sont de la même catégorie, qui parlent du sujet. Souvent, c'est un petit œil extérieur quand même. Ils ont beau avoir des journalistes qui doivent être plus ou moins spécialisés en agricole, ça n'a quand même pas la vision comme on pourrait l'avoir en milieu plus technique, quoi. Et donc, c'est souvent aussi tiré un peu vers là où le grand public veut aller.
Parce que c'est un journal que vous lisez depuis longtemps.
Depuis que je suis petit, moi. Mais... Toi, depuis qu'on est ici.
Ouais.
Ça fait 20 ans le journal.
Après, c'est peut-être aussi parce que les gens se préoccupent peut-être de plus en plus de ce qu'ils ont dans leur assiette, de l'environnement. Donc, consacrer une page justement à discuter de ce sujet, c'est peut-être une attente aussi des lecteurs.
Et, ouais. Ouais. Les premières pages.
Moi, j'aime bien regarder justement, connaître un peu la vie des autres, en fait, qui ne sont pas agriculteurs, un peu voir comment ils voient justement notre métier.
Ouais.
Moi, j'aime bien lire.
Et au point de vue environnemental, parce qu'on parle de la santé, mais aussi de l'environnement, le choix qui pourrait être fait pour arrêter l'utilisation du glyphosate, ça ne pourrait pas être remplacé par quelque chose
Dans l'immédiat, il semblerait que... Mais demain, si on peut trouver quelque chose de plus vertueux pour remplacer le glyphosate, je dis oui tout de suite. Enfin, mais après, il faut pas oublier aussi que toute activité humaine... Et polluante, que ce soit pour les cosmétiques, que ce soit le diesel, que ce soit le nucléaire, enfin. Donc voilà, est-ce qu'on est prêt à se passer de tout ça?
Donc vous en utilisez?
Moi j'en utilise à très faible dosage à l'hectare. J'en n'utilise pas tout le temps, mais oui, il m'arrive d'en utiliser.
Si vous voulez en savoir plus sur les freins à la réduction des pesticides dans l'agriculture française, n'hésitez pas à aller cliquer sur l'enquête réalisée par nos camarades de l'IUT de Lannion. Elle sera disponible sur le site web de Mediapart d'ici le début de l'été.
Pour que vous vous en sortiez mieux, il y a des choses que vous pourriez faire ou il n'y a rien qui est entre vos mains en fait?
Non, il n'y a rien. Enfin, le prix on ne maîtrise pas donc, et les normes non plus. Donc de toute façon d'un côté on va vous imposer des normes. Et de l'autre côté, on va vous imposer un prix. Donc, de toute façon, content ou pas content, perte ou pas, si vous ne produisez pas le lait, vous perdez encore plus.
Avant de reprendre l'exploitation, il y a 8 ans, dans votre tête, vous étiez au courant de tout ça ou c'est arrivé au fur et à mesure?
Non, ça a énormément changé. Enfin, moi, quand je me suis installé, donc c'était en 2004, il n'y avait jamais eu de crise laitière en lait. La première crise laitière, elle est arrivée en 2008, je crois. On avait le lait, c'était pas cher payé, mais c'était stable. Donc, ça allait. Aujourd'hui, il faut produire plus pour gagner pareil.
Pour Catherine Darrault, maîtresse de conférences en sociologie environnementale, parler d'une crise, c'est avant tout un choix politique.
Parce que le terme crise, il signifie qu'il y a eu un accident de parcours et qu'on va sans doute mettre au point quelques dispositifs pour redresser la barre et qu'on va retrouver une situation d'équilibre. Mais c'est absolument pas ce qui se passe. C'est une politique de longue haleine, structurelle, délibérée, qui vise à augmenter la taille des structures pour faire des économies d'échelle et finalement diminuer le coût de revient à l'unité, c'est-à-dire au litre de lait, en gardant assez peu de structures, et en répercutant la baisse du prix du lait sur l'amont de la chaîne. C'est une stratégie délibérée de laisser aux éleveurs juste de quoi survivre. C'est savamment dosé, en fait. Hein. C'est des réglages assez fins du marché.
Vous ne cherchez pas à gagner, vous cherchez à moins perdre. Les normes, si demain l'Europe ou la France dit vous n'avez plus le droit de stocker de fumier au champ, ce qui est fait quand même depuis la nuit des temps, hein. C'est quoi le choix? Est-ce qu'il faut se mettre 100 000 euros pour faire une fumière? Pas sûr. J'essayais d'anticiper en me disant on va peut-être vers là. Quand je vois le montant des travaux, je me dis bon. C'est pour ça, nous, il nous reste 4 ans de dur. Mais c'est pour ça qu'on se dit, on verra bien.
Qu'est-ce que vous pourriez faire, par exemple?
Je sais pas, on se formera, on trouvera bien. Et puis, double actif. On gardera les terres, et puis c'est tout. Et puis, il n'y aura plus d'élevage. Et derrière, s'il n'y a plus d'élevage, il n'y aura plus de transformation. Ça fera du chômage encore en plus.
Pierre Dupraz, chercheur en économie à l'INRA.
Alors, c'est intéressant qu'il explique ça parce que ça, c'est vrai au niveau d'une région ou d'un petit pays comme l'Irlande, mais c'est faux au niveau européen. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que les régions qui sont les mieux organisées, c'est celles qui vont réussir à faire les meilleurs produits le moins cher, donc avec le moins de travail globalement. Et donc, au niveau européen, ce qu'on voit, c'est une concentration de certaines productions dans certaines zones, peut-être parfois une augmentation des emplois qui vont avec dans ces zones-là, mais globalement une baisse des emplois et agricoles et même industriels. Hein. Donc là-dessus, il a raison. Hein. C'est-à-dire, les emplois dans une région, c'est vraiment au détriment des emplois dans une autre région. Et la peur qu'il a, c'est que la Bretagne appartienne à une région en déclin agroalimentaire.
Parce qu'une région où il y a de l'élevage, c'est quand même une région vivante. Demain, est-ce qu'on veut de l'emploi? Est-ce qu'on veut de la vie? Mais l'élevage, ouais, c'est la vie aussi, hein, parce que c'est des animaux qui, nous, on a peut-être 150 naissances par an.
D'ailleurs, c'est qu'on aille voir la vache.
Ouais.
Elle est en train de lécher.
Ah, lui, c'est tout neuf. Hein. C'est aussi pour ça qu'on est éleveur. Parce que c'est quand même beau. On est content quand tout se passe bien.
C'est la fin du deuxième épisode de Gavé, réalisé par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Au prochain épisode, on discutera transition écologique dans une grange, avec de super invités. Tout de suite, un extrait.
L'agriculteur, il est au milieu d'un tissu d'incohérences et de contradictions. Il y a un discours de l'agroécologie avec des mesures d'aide publique, mais qui posent question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles encouragent ou pas. Mais il y a aussi des politiques économiques, il y a des questions de paiement des prix qui vont dans l'autre sens, c'est-à-dire qui poussent au contraire à continuer d'intensifier, à continuer d'agrandir et à, soi-disant, continuer à faire des économies d'échelle. Donc c'est ça que j'appelle le contrat social rompu. Et pour l'instant, il n'est pas encore retrouvé.
Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram à LPJ Lannion. Merci pour votre écoute.